Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors Rav Lemel, par ailleurs, de manière collégiale, vous avez décidé que notre émission la semaine prochaine repasse au vendredi, en raison tout simplement du changement d'horaire, même si, franchement, les rabbanim enregistrent, ne peuvent pas être présents trop près des horaires du Shabbat. Rav Lemel, ce soir, donc rendez-vous vendredi prochain. Rav Lemel, ce soir, vous voulez nous parler d'un sujet bien spécifique, qui évidemment est évoqué dans notre paracha, et c'est le Korban Pessah.
Exact. On a donc dans cette paracha de beau la fin des plaies, et puis on a donc cet élément qui va précéder la sortie d'Égypte, et qui va d'ailleurs se retrouver dans l'histoire, vu que eh bien, cette mitzvah-là, ce commandement-là, va perdurer, en tout cas tant que le temple à Jérusalem sera présent. C'est la mitzvah donc de Korban Pessah, c'est-à-dire d'amener cette offrande qui s'appelle le Korban, donc une offrande de Pessah, avec ceci de particulier, c'est que celle-ci va être consommée par toutes les familles. Il ne s'agit pas d'une offrande qu'on amène au temple de Jérusalem et puis voilà, elle est là au temple. Non, pas du tout. On va au temple, évidemment, ça doit se passer au Beth Amikdash, mais à la base, eh bien, c'est pour que justement on se retrouve tous autour de ce Korban Pessah. Alors, c'est intéressant de voir que les mots que la Torah utilise lorsqu'elle parle de cette mitzvah, de cette injonction qui est donnée au peuple d'Israël de faire le Korban Pessah sont les suivants: Mishru ukechu lachem tson mishpechotechem veshachatu haPessah. Mishru, tirez ukechu lachem et prenez pour vous tson, un petit bétail, ça va être un mouton, ça va être un agneau, et pour vos familles, et vous allez faire donc le sacrifice du Korban Pessah et vous le mangerez ensemble dans une posture de personnes qui sont prêtes à partir. Alors, évidemment, le premier terme est très surprenant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire Mishru ou Kocholachem Tson, c'est-à-dire littéralement tirez et prenez vers vous ce petit agneau? A priori, la Torah n'est pas là pour nous indiquer quelles sont les techniques pour pouvoir prendre un agneau et par la suite l'amener pour en faire un korban. Alors, sur place, les commentateurs nous expliquent et nous disent non. Mishru, tirez. Il ne s'agit pas ici de la technique à utiliser pour l'agneau, pour récupérer l'agneau, mais ici, en effet, Mishru yedechem et avodazara, c'est-à-dire arrachez vos mains, tirez vos mains de la avodazara, de l'idolâtrie, et après seulement prenez cet agneau. Ça revient à dire que le peuple d'Israël est encore très très proche de cet univers de la avodazara, de l'univers du culte des idoles. Et il faut bien comprendre pourquoi. Nous, on voit l'histoire de la sortie d'Égypte comme étant un moment particulier dans lequel, évidemment, on va commencer à croire, on va tout changer. Mais rappelez-vous quand même que pendant des dizaines et des centaines d'années, le peuple d'Israël a été asservi en Égypte. Et donc, il y a énormément de choses qui se sont perdues, énormément de choses qui vont disparaître. Et donc, pour nous, c'est évident. Mais essayez d'imaginer que vous avez été plongé dans une civilisation qui n'a rien à voir avec vos valeurs pendant des siècles et des siècles, enfin des siècles, oui, au moins deux siècles, et puis d'un seul coup, vous allez vous extraire complètement de cela. Et c'est ce que la Torah est en train de nous dire ici, Mishru Kocholachem Tson, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai travail pour pouvoir littéralement se débarrasser de tous les relents de la civilisation égyptienne. Et si le texte de la Torah nous le dit, c'est qu'au fond, nous devons savoir nous aussi que il y a en effet un impact des civilisations dans lesquelles nous vivons, et même si aujourd'hui nous vivons en tant que juifs, eh bien, il faut en avoir conscience. C'est déjà donc la première chose. Donc, se rappeler qu'on ne peut pas amener un Korban Pessah, qu'on ne peut pas s'inscrire dans une dynamique nouvelle, si d'abord, on ne sait pas, j'ai envie de le dire de cette manière-là, revirginiser l'esprit, c'est-à-dire si on n'a pas fait en telle sorte qu'en effet, eh bien, l'histoire passée n'ait plus rien à voir avec nous. Ça, c'est donc ce premier enseignement. La seconde chose, évidemment, c'est que ce Corban Pessar, c'était une forme de pied de nez aux Égyptiens, vu que l'agneau était une de leurs divinités. Et on demande aussi au peuple d'Israël de faire preuve de courage, c'est-à-dire, à un moment, d'assumer pleinement la direction qu'ils vont prendre par rapport à cette société dans laquelle ils ont vécu. Alors, rappelons-nous que la Torah nous dit que même si nous avons été esclaves en Égypte, nous avons été accueillis à un moment ou à un autre par les Égyptiens. Donc, ce n'est pas le déni et le mépris complet, c'est tout simplement ce que j'appellerais le positionnement que le peuple juif doit avoir par rapport aux Égyptiens. En deux mots, la Torah ici, et même si ça peut sembler un peu surprenant, est en train de nous dire que l'on ne doit pas avoir peur de nous positionner par rapport à un système auquel on n'adhère pas. Si les Égyptiens ont envie d'adhérer au dieu mouton, qu'ils y adhèrent, mais quelque part, pour nous, ça ne veut strictement rien dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Y a ici quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'air du temps, puisque aujourd'hui, on nous demande de dire, non, ben, au fond, tout le monde a raison, ce que vous faites, c'est super. Non, pas du tout, la Torah dit non. Pour nous, en tout cas, le coup d'agneau, d'ailleurs, si demain vous allez en Inde, bon, ben, les hindous respectent la vache comme étant une vache sacrée, libre à eux, il n'y a aucun problème, mais à un moment, sachez que pour nous, ça ne représente strictement rien. Eh bien, c'est ça que le clan Israël doit faire, être capable de dire clairement, pour nous, ce qui pour vous représente quelque chose d'important, pour nous, ne représente rien. Libre à vous, évidemment, de faire ce que vous voulez, mais à un moment, il faut être clair dans sa tête par rapport à cela. Et après, évidemment, dans ce premier Corban Pessar qu'on va faire, la Torah va insister sur quelque chose qui va être une halakha par la suite, une loi par la suite, c'est le Mishpachotechem, en famille. Alors, la famille, si ce n'est pas nécessairement que la famille nucléaire, c'est une famille beaucoup plus vaste, c'est-à-dire décider de créer un groupe autour de cela. Comme si on était en train de nous dire, sachez que ce qui va maintenant va devoir vous accompagner après la sortie d'Égypte, c'est cette notion d'unité, cette notion d'être ensemble, mais famille par famille. Alors, quand je dis famille par famille, ce n'est pas nécessairement la famille Lévi, la famille Cohen, la famille X, la famille Y. On peut l'élargir, mais décider qu'on s'installe ensemble pour pouvoir, en effet, faire ce Corban Pessah. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose ici de très intéressant parce que la Torah nous montre bien qu'on ne peut pas construire l'histoire future du clan Israël si cette notion de décider de se réunir et d'être ensemble, eh bien, nous ne l'avons pas mise en place, nous ne l'avons pas élaborée. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit aussi que Pessah, au fond, reste aussi pour beaucoup la fête de famille, famille élargie, parce que c'est là où véritablement se situe un des éléments fondamentaux du clan d'Israël. Donc, on a ces différents éléments. Et puis après, eh bien, on nous donne la recette. On va nous dire, et ce Corban Pessah, attention, il va falloir le griller. Il ne faudra pas le cuire d'une manière différente. Désolé pour toutes les cuisinières et tous les cuisiniers du monde, c'est la viande doit être grillée. Et pourquoi disent nos maîtres ? Une des raisons, c'est parce que lorsque la viande est grillée, eh bien, les fibres se resserrent. Et donc, ça nous renvoie encore à cette dimension d'unité. Mais, précise-t-il, attention, cette dimension d'unité, eh bien, on peut la créer soit le Mishpachotechem, soit en décidant de se mettre ensemble, c'est-à-dire c'est un choix de s'associer, ou alors, parfois, et c'est dramatique, mais ça a pu se passer dans l'histoire, c'est sous l'action du feu qu'en effet, eh bien, les fibres se resserrent, c'est-à-dire c'est lorsqu'on est confronté à des difficultés en tant que peuple qu'on réalise qu'au fond, on est une seule et même entité et on se retrouve côte à côte. Alors, voilà un petit peu quelques éléments qui sont présents dans cette paracha par rapport à ce Corban. Nous, ce qu'on espère, évidemment, c'est pouvoir rétablir à nouveau le Corban Pessah. Les maîtres du Talmud nous décrivent les cérémonies qui étaient assez incroyables avec les milliers de pèlerins qui étaient à Jérusalem en train de faire le Corban Pessah. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui a perduré dans l'histoire. Et même si aujourd'hui, nous ne l'avons pas, nous continuons à être autour de ce concept à travers la table du Seder. Et c'est sans doute ça un des gages de l'éternité du peuple juif.
Rav Eli Lemel, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai Biton, bonsoir et Shavua Tov.
Shavua Tov, Shalom Aleichem.
Rav Mordechai, alors vous voulez intervenir sur la notion du miracle. C'est quoi un miracle? Qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas croire? Et c'est vrai que là, on a des livres et des livres et des livres sur la question des Chachamim. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ce soir et nous inviter à réfléchir?
Et oui, mon cher Bernard, effectivement, la paracha de Bro, donc cette paracha que nous allons lire la semaine prochaine, c'est la paracha donc, qui clôture la série donc, des 10 plaies, des 10 makotes qui vont frapper donc, l'Égypte. Et finalement, quand on réfléchit sur cette paracha de Bo, alors paracha de Bo, c'est très intéressant parce que le mot Bo, Bet Aleph, c'est Gematria 3. Il reste effectivement 3 plaies. Le Rabban, Nachmanide, va expliquer à la fin de cette paracha, une donnée qui est une donnée fondamentale pour le judaïsme. Dieu n'intervient pas en permanence dans l'histoire de manière aussi miraculeuse. La révélation sinaïtique ne s'est passée qu'une fois. La sortie d'Égypte, ça ne s'est passé qu'une fois. Et les 10 plaies d'Égypte, ça ne s'est passé qu'une seule fois. Et l'ouverture de la mer Rouge ne s'est passé qu'une seule fois. Mais il y a eu quantité de miracles dans l'histoire du peuple juif. Mais cette intervention-là, si je puis dire, en mondiovision et en technicolor, si je puis dire, c'est une intervention particulière. Pourquoi ? C'est une intervention qui est destinée à forger dans la conscience du peuple juif cette idée que la nature n'est pas soumise au processus naturel. La nature, ce qu'on appelle la nature, est soumise à l'intervention d'Hachem, que l'histoire de l'humanité est soumise à l'intervention d'Hachem, que l'histoire de Ham Israël, du peuple juif, est soumise à l'intervention d'Hachem. Une fois pour toutes dans l'histoire, ça sera ancré, ça sera posé. Dieu intervient du fait des miracles, Dieu conduit l'histoire, mais il fallait que cette chose-là soit affirmée, en quelque sorte signée, qu'il y ait une signature. C'est ça l'histoire de la sortie d'Égypte. Et le Ramban, Nachmanide, à la fin donc, du Parasha de Bo, dans son commentaire, va expliquer que c'était l'objet des 10 plaies d'Égypte, l'objet donc, de l'ouverture de la mer Rouge, de la révélation sinaïtique, ancrée une bonne fois pour toutes cette réalité. Mais ça ne se reproduira pas. Et le Ramban, Nachmanide, va même aller beaucoup plus loin. Il va dire Dieu ne va pas refaire à chaque fois ces miracles pour des imbéciles ou pour les sceptiques, on dirait aujourd'hui, ou pour les gens qui sont professionnellement sceptiques. Non, pas du tout. Ce miracle, il a été fait une seule fois pour ancrer. Maintenant, qui veut le prendre, le prend. Qui ne veut pas le prendre, ne le prendra pas. Mais ce miracle affirme une réalité. Dieu dirige le monde. Et cette idée, c'est une idée sur laquelle il faut réfléchir dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Depuis le 7 octobre donc 2023, depuis Simchat Torah 2023, et on a vécu à la fois des tragédies, mais on a aussi vécu des miracles. Chaque personne qui a été sauvée de ce massacre, tous les soldats qui sont revenus indemnes, racontent à la fois l'histoire d'une abnégation, d'une messirot nefesh, je veux dire en hébreu, mais en même temps l'histoire d'un miracle. Et c'est très intéressant cette notion de miracle. Il faut bien y réfléchir. Finalement, qu'est-ce que c'est un miracle? C'est un bouleversement de la réalité. Tenez par là. Donne-moi un exemple. Imaginez qu'on ait dit à un enfant qui est né dans le désert, on lui dit, tu sais, quand tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas prendre une graine, tu vas la planter, et cette graine, elle va donner un arbre. Qu'est-ce qu'il dirait cet enfant? Il dirait, mais vous êtes fou. Non, on n'est pas fou, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il répondrait? Il dirait, mais c'est un miracle. En vérité, c'est un miracle. Et on lui dirait, mais tu manges de la manne, tu es né là maintenant, tu manges de la manne, et ça fait 20 ans que tu manges de la manne. Il dirait, mais c'est tout à fait normal. Nous regardons, nous, le phénomène de la manne comme étant un miracle, et cet enfant-là aurait regardé les phénomènes naturels comme un miracle. De là, nous avons ici une signature, si je puis dire, qui est tout à fait extraordinaire. C'est que le miracle, en vérité, c'est un bouleversement de notre réalité. C'est un bouleversement des lois de la réalité, mais c'est un bouleversement de notre regard sur la réalité. Est-ce qu'on peut regarder la réalité comme un miracle permanent et s'habituer à comprendre que nous vivons dans une atmosphère de miracle permanent? La réponse est oui. Beaucoup de scientifiques le disent. Si par exemple vous regardez le cosmos et la précision des réglages, et vous comprenez que si on changeait certaines constantes de 100 milliardième, tout l'espace volerait en éclats. Et quand on comprend que ce réglage n'est possible que grâce à l'intervention d'un architecte, le hasard ne peut pas tout expliquer, on comprend que d'une certaine manière, cet espace dans lequel nous vivons, qui est un espace dit naturel, est en fait le fruit d'une intervention permanente du Créateur. Est-ce que c'est un miracle ? Est-ce que c'est un miracle ? Alors, dans notre conscience, ça n'est pas un miracle, parce qu'il n'y a pas ici apparition d'un fait merveilleux, subi, qui émerge comme ça dans une réalité qui bouscule les lois de la réalité. Mais en vérité, quand on s'habitue à regarder la nature comme étant finalement le fruit de l'intervention d'Hachem, on la regarde d'en haut, si je puis dire. C'est-à-dire que l'on comprend que cette nature, elle obéit à des processus qui sont d'abord et avant tout des processus qui ont été cogités, si je puis dire, sur le plan spirituel. Est-ce que ça n'est pas déjà, d'une certaine manière, vivre dans une atmosphère de miracle ? Finalement, qu'est-ce que c'est le Nes ? On va le traduire en hébreu. Le Nes, c'est un signe. Comme on le verra dans le livre de Bamidbar, dans les nombres, là-bas, le bâton de Moshe, il était le Nes. Nes, et Rashi va expliquer, Nes, qu'on traduit par miracle, ça veut dire « haut », ça veut dire quelque chose qui est particulièrement visible. Mais en vérité, à partir du moment où vous vous habituez à voir finalement l'intervention de Dieu dans le monde, et vous comprenez que le monde est le fruit de l'intervention d'Hachem, et que ce qui se passe dans le monde est le fruit de l'intervention d'Hachem, en vérité, vous vivez « benes », vous vivez à une certaine hauteur. Et cette hauteur-là, elle est fondamentale, parce que c'est cette hauteur-là, ce regard, cette hauteur-là, qui est finalement la base de l'aïmouna du peuple juif. Dans toutes nos prières, nous rappelons la sortie d'Égypte. Dans toutes nos prières, nous rappelons les miracles qui l'ont accompagné, l'ouverture de la mer Rouge et le don de la Torah. Dans toutes nos prières, même pour Rosh Hashanah, pour le Nouvel An, quel rapport entre le Nouvel An et Rosh Hashanah ? Toujours, on rappelle ce fait-là. Pourquoi ? Parce que la base de l'aïmouna du juif, elle est de comprendre qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, s'est produit un événement qui est un événement miraculeux, une suite d'événements miraculeux, mais pour nous expliquer que le quotidien est le fruit de l'intervention d'Hachem. Ce que nous appelons en règle générale un miracle, quand ça se passe de manière très inattendue et spectaculaire. Mais en vérité, nous vivons dans un miracle permanent qui s'appelle l'intervention d'Hachem. Intervention d'Hachem dans le monde égale miracle, égale Nes, égale hauteur égale capacité à regarder le monde d'en haut. Et c'est tout à fait fondamental, parce qu'on est ici au cœur de l'aventure du peuple juif. On peut regarder l'aventure du peuple juif comme étant une aventure logée au cœur du politique, de l'économique, mais on peut la regarder comme étant une aventure spirituelle, guidée d'en haut, mais qui s'inscrit dans le réel. Et ça change tout. On s'habituera ainsi à penser, finalement, comme Maïmonide, dans les lois du Ta'anit. Maïmonide nous dit, Rambam nous dit dans les lois du Ta'anit, que lorsqu'il y a des mauvais décrets qui s'abattent sur Israël, ça ne fait que renforcer les mauvais décrets de penser qu'ils sont le fruit du micré, du hasard, enfin on dirait aujourd'hui de la politique ou de la géopolitique. Non, pas du tout. Les décrets qui parfois douloureux et qui parfois s'abattent sur Israël, sur le peuple juif, ils sont d'abord et avant tout le fruit de la volonté d'Hachem, le fruit de la volonté divine. C'est là d'abord, c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe finalement ? Finalement, on devient comme des chiens. Les chiens, quand ils sont frappés, ils se jettent sur le bâton. Mais le bâton, il est tenu par quelqu'un. Donc d'abord, avant toute chose, dans ces décrets, nous dit le Rambam, dans ces périodes de décrets, se rappeler que Hachem conduit l'histoire. Hachem veut quelque chose de nous, et donc il nous parle. Par les miracles quotidiens, le corps, l'atmosphère, le fait de vivre en Eretz Israël aujourd'hui, d'accord ? Et en même temps, il nous parle aussi par des épreuves qui sont plus douloureuses, et il nous parle aussi au moment de la sortie d'Égypte et de la mer Rouge. Il nous parle, en fait, il nous parle tout le temps. Il nous parle tout le temps. Et cette lucidité, cette conscience est la base de la Emouna et de la foi du peuple juif. Là, je n'ai fait que vous retraduire en quelques mots ce que le Ramban Nachmanide explique à la fin de Parashat Bo. Il ne l'explique qu'une fois, mais c'est une base. Je pense que ça vaudra la peine ce Shabbat, enfin, durant la semaine, de vous pencher sur ce Ramban, sur ce Nachmanide-là, ce qui est à la fin de Parashat Bo, et de l'étudier et de l'intégrer. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec, je l'espère, de bonnes nouvelles.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Shavua Tov et bonsoir à vous. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Guay. Rav Guay, bonsoir et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Rav Guay, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle porter le fardeau avec son prochain. C'est-à-dire que alors ça a toute une série de déclinaisons. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un... par exemple, on voit quelqu'un décharger son âne, on ne peut pas passer à côté et il décharge tout seul. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que même s'il est payé pour le faire, on n'a pas le droit de le laisser. Il y a une solidarité entre juifs, qu'on a d'ailleurs vu depuis le 7 octobre, qui fait que, bah, qui vient de ces lois-là. On n'a pas le droit de laisser un juif dans la difficulté. Et, alors après, les Chachamim, ils ont demandé, mais s'il charge l'âne, c'est pareil, tu dois l'aider, tu peux pas le... tu dois porter avec ton frère. Et c'est de ça que vous voulez nous parler ce soir, Rav Guay.
C'est tout à fait exactement. Alors effectivement, on peut penser déjà aux otages, où déjà on est content de voir certains sortir et de se rendre compte de la solidarité de tout un peuple, enfin de tout le peuple juif, et le fait que, par exemple, il y a un très grand maître en Israël, le gendre Avraham Kanevski, qui a dit que depuis le 7 octobre, et en pensant aux otages, il ne dormait plus dans son lit. Il était un matelas par terre pour se dire « moi, je ne peux pas dormir dans un lit confortable alors que les otages sont dans des conditions effroyables aux mains du Hamas ». Donc, ce n'est pas obligatoirement seulement de venir effectivement porter, comme vous l'avez dit, et l'aider lorsqu'il a une charge lourde, c'est même de faire des actes pour marquer sa solidarité, même si l'autre ne peut pas être aidé par le fait que le rav est en parterre, on est d'accord. Mais c'est de se dire, je suis solidaire, je ressens la souffrance des autres, et donc je ne peux pas vivre normalement. D'ailleurs, Noir et tous ceux qui se trouvaient dans la Teva pendant toute la période donc, de Maboul, il n'y a pas eu de relation intime. Yosef, lorsqu'il y a eu la famine également, un homme doit être conscient des difficultés de son prochain et porter avec lui de différentes façons le fardeau qu'il incombe à son ami, se sentir solidaire. Et pour ce qui est de la paracha, des parachotes que nous lisons, Shemot, Vaera, Bo, enfin, parachotes qui parlent de l'exil et de la délivrance, si vous regardez le CV de Moshe, finalement, Moshe, on ne dit pas de lui que c'est le plus sage et le plus intelligent et le plus savant en Torah ou dans d'autres matières. Bref, il n'a pas de... on ne parle pas de son côté intellectuel. On parle de sa anava, effectivement, de son humilité. Mais surtout, on le décrit comme quelqu'un de concerné par les autres. Puisque dès son plus jeune âge, alors qu'il est dans le palais de Pharaon, dans tout le confort qu'on peut imaginer, il va sortir vers ses frères pour les aider, pour voir leurs souffrances, et communier avec eux, et montrer des actes d'empathie. Et ça, c'est déjà Moshe au tout début, donc il est encore très jeune. Après, il intervient lorsqu'un Égyptien frappe un Juif. Il ne peut pas supporter de voir son frère frapper injustement. Deux Juifs qui se disputent, il intervient. Les filles de Yitro sont écartées, il intervient encore. Et surtout, comme le dit le Midrash, lorsque Hachem le voit s'approcher de la fournaise, de la buisson ardent, excusez-moi, eh bien, il dit « Vayar Hachem qui s'arrête haute ». Il a vu Hachem qui s'était détourné pour voir. Le Midrash nous dit, c'est pas qu'il était venu par curiosité seulement voir le buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. C'était le fait qu'il était allé voir le sort de ses frères juifs. Et Dieu est sensible à cette sensibilité, à cette empathie. Et le Midrash nous dit que c'est un peu la Mida, le trait de caractère qui caractérisait tous les Juifs. Parce que lorsque un Juif avait terminé son travail, au lieu de se reposer, et ça aurait été très logique et très compréhensible, qu'après un travail si ardu, il aille se reposer, il allait voir si d'autres frères nés Israël, comme lui, n'avaient pas terminé leur travail, et il allait aider son prochain à terminer son travail. Donc on voit la dimension incroyable de cette force de Nosseb Olim Chavero, de cette empathie, de cette solidarité, de cette capacité de faire ensemble. Et on nous dit ni plus ni moins que si Hachem a sauvé les Juifs d'Égypte, c'est en particulier parce qu'ils avaient cette solidarité, cet amour, cette union, cette unité, ben, surtout, et cette capacité de donner à l'autre. Celui qui est Merachem, qui prend en pitié l'autre, eh bien Hachem le prend en pitié. Voilà pourquoi les Juifs ont été sortis d'Égypte alors qu'ils étaient dans les 49 portes de l'impureté, c'est-à-dire ils étaient idolâtres. Effectivement, ils étaient très impressionnés par la culture égyptienne, mais il n'empêche qu'ils restaient entre eux très unis, et c'est ce qui est le secret de leur délivrance. Nosebol Yuchaviro, ça va très loin. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué, que j'ai entendu du Rav Wolbe, qui disait qu'un jour, on a vu son maître, qui avait toujours un visage particulièrement lumineux le jour du Shabbat, avoir justement ce Shabbat-là un visage un petit peu marqué, triste. Et lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi aujourd'hui ce Shabbat vous êtes comme ça, il a répondu, Peres Minansky est mort. Vendredi, il est mort, Peres Minansky. Et on dit, qui c'est Peres Minansky? C'était un homme qui écrivait des pamphlets contre la Torah, contre les sages, un homme particulièrement remonté contre tout ce qui avait été jeté à la Torah. Il disait, je pensais à son âme devant le trône céleste, et j'avais une sorte de pensée, d'empathie pour cette neshama, cette âme qui devait rendre des comptes devant le trône céleste, et donc j'avais un peu de peine, j'ai du mal à passer un bon Shabbat. Et alors que cet homme était, entre guillemets, un de ses ennemis, eh bien, il avait de la peine pour sa neshama. Ça va très loin, donc, nos sever yimchavero. Et c'est en fait notre devoir, depuis le 7 octobre, de ne pas vivre, entre guillemets, normalement, sans penser un jour ou faire des actions quotidiennes pour les otages. Et même si on n'a pas la possibilité physiquement de faire quelque chose, ou financièrement, ça ne changerait à rien, mais le fait de penser à eux, de faire peut-être un acte ou de se priver de quelque chose en pensant à eux, c'est un acte tout à fait juif et tout à fait digne de respect. Et c'est en fait ce que dit Akadosh Baruch Hu lorsque on l'observe au moment de Matan Torah, à la fin de Mishpatim, on voit que sous le trône céleste, il y a une brique en saphir, l'Ivnat à saphir. Cette brique en saphir représente les briques que faisaient les Juifs, construisaient les Juifs, créaient les Juifs pendant la servitude en Égypte. Et Hachem dit je ne peux pas oublier mes enfants, qui sont très lourdement et très durement asservis en Égypte. Et donc Hachem se présente comme étant solidaire de notre souffrance à travers cette image donc de la brique en saphir, pour montrer comment nous devons nous aussi nous conduire. Hachem, en faisant cela, il ne sauve pas les Juifs, il porte avec douleur la souffrance du peuple juif, mais après, évidemment, il va agir Hachem, il va envoyer Moshe, et pendant longtemps, on va souffrir énormément, et lui, il va souffrir avec nous. Cette capacité, donc, de ressentir de l'empathie pour des gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont des bnei Israël comme nous, qui souffrent parce qu'ils ont été pris de façon arbitraire pendant le 7 octobre, et bien c'est effectivement, et je suis d'ailleurs, je dois dire, on a vu des actes de solidarité, des marques très profondes, très fortes de solidarité envers ces personnes qui sont dans une situation si effroyable, et bien ça, c'est une des marques du peuple juif, et c'est une des raisons qui nous fait espérer la Géoula finale. La délivrance finale ne se fera que si on est Merachem et Alzé, si on a justement envers les autres, les uns envers les autres, cette empathie, ce souci de leur santé, de leur bien-être, même si on ne les connaît pas. Parce que tout simplement, s'ils sont devenus Israël comme nous, et peu importe leur engagement religieux ou non, peu importe leur origine, ce sont nos frères, et il faut être solidaire, et c'est ça qui peut nous amener la Géoula. C'est pour ça que Moshe a été choisi, Moshe qui a tout le peuple juif dans son cœur, et qui est capable, donc, pendant 80 ans, alors qu'il est loin de ses frères, d'être l'homme le plus concerné, comme d'ailleurs Yosef va s'occuper de ses frères lorsqu'ils viendront et de son père. Donc c'est l'apanage des grands leaders du peuple juif, d'avoir tout le peuple juif dans leur cœur, et de prendre donc d'être véritablement des gens qui prient de tout leur cœur pour des gens qu'ils ne connaissent pas, mais parce que c'est leur frère, et ce sentiment-là, c'est le sentiment qui doit animer chacun d'entre nous jusqu'à la délivrance finale.
Rav Rosenberg nous disait, vous savez, le pire, c'est qu'il avait cette empathie-là Moi, cher Abinou, c'est que les gens lui rendaient pas forcément. Donc c'est là en plus toute la grandeur, c'est de le faire quand en plus de ça on reçoit rien en retour et même des récriminations, le contraire. Par exemple, des fois avec ses parents, on se dit, mais pourquoi? Alors, je vais dire deux choses avec votre permission. La première, c'est que on a reçu ici à Radio Shalom cette semaine un général israélien des Golani. Donc le gars, c'est vraiment ses troupes d'élite. Et je lui ai demandé si Israël avait rétabli l'équilibre des forces avec l'Iran, etc. Alors la réponse, elle est évidemment oui, mais vous savez pourquoi? Qu'est-ce que le général, il va me dire, parce qu'on a des tanks et des avions. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ce qu'on a, c'est la force de la population israélienne, c'est les forces qu'elle a su trouver en elle et sa solidarité. C'est ça qui a fait qu'on est imbattable. Il a dit ça. Alors que lui, son métier, c'est d'acheter des tanks. Donc ça, c'est beau, hein?
C'est beau, et puis c'est d'ailleurs ce qui a déclenché le cataclysme du 7 octobre. C'était notre, on en parlait souvent avant, ce manque d'unité et de sentiment de fraternité. Et puis après, malheureusement, dans des circonstances difficiles, effroyables, eh bien, on redécouvre le vrai visage du peuple juif, qui des fois s'oublie, mais lorsque les grands rendez-vous de l'histoire sont là, ils sont au rendez-vous.
Ah, il a dit, on a des forces que nos ennemis, ils vont amèrement regretter d'avoir cru qu'on les avait plus. Et je profite de cette occasion de nouveau sous votre contrôle pour dire deux choses. La première, on est samedi soir. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous avez décidé, vous qui faites cette émission, qu'on repasse à vendredi soir. Donc voilà, l'émission est de nouveau décalée en raison du changement d'horaire. Et aussi, puisque c'est le dernier samedi qu'on est ensemble, la prochaine fois, on se retrouve vendredi. Ceux qui ne font pas la Havdala, qui n'ont pas l'habitude de le faire, qui se disent, ah, je ne sais pas, qui n'ont pas un niveau de religiosité ou d'érudition de Rav Gueh, faites la Havdala ce soir et vous le faites pour les Khatoufim. Faites-le pour les otages. S'il y a même un seul qui fait, faites-le pour les otages. Et faites-le en pensant aux otages. Et deuxièmement, demain, c'est dimanche, après tout ce que vient de dire Rav Gueh, ben, dimanche, on peut faire plein de choses. On peut aller dans un EHPAD, voir quelqu'un qui est un peu éloigné, d'habitude on ne fait pas l'effort d'aller le voir. On peut faire plein de choses. On peut aider quelqu'un qui est en train de construire sa maison, on peut faire plein de choses. Donc faites-le. Et voilà. Et comme dire, vous êtes d'accord avec moi, évidemment?
Non, je ne peux qu'encourager et aller dans ce sens, effectivement. C'est pas que des mots, en fait. Nos symboles, c'est pas dormir sur un matelas en pensant aux otages, mais c'est aussi... en rendant visite à des personnes en deuil ou des personnes qui sont en difficulté, isolées.
Des fois, il faut prendre la voiture, on se dit « Ah, j'ai pas envie », ben prenez la voiture demain.
Exactement.
Allez, Rav Gueh, merci, excusez-moi, je vous ai interrompu, je suis grossier, mais j'ai pas fait exprès. Et de nouveau, ne croyez pas, moi je suis pas rave, hein, mais on m'a appris ça, que allumer les bougies et faire Shabbat, c'est la même chose. C'est 2 mitzvot. C'est comme si vous me dites, mais moi, je ne fais pas shacharit, je ne vais pas mettre les téfilines, à Dieu ne plaise. C'est 2 mitzvot. Donc, s'il y en a ce soir qui sont un petit peu plus éloignés, pensez à la Havdala. Rav Gueh, je vous remercie. Shavua Tov. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi. Bonsoir à vous.
Au revoir, bonsoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi. Vendredi, et pas samedi. Shavua Tov et excellente soirée. Bon week-end.